alimentation et santé sont étroitement liés. Tous les premiers et troisièmes mercredis du mois à 9h, j'accueille sur le réseau FM+, 91 FM sur Montpellier et Alliance Plus 103.1 FM sur Nîmes, eh bien j'accueille Madame Weinstein Loison, naturopathe à Saint-Jean-de-Védas. Alimentation Santé, une émission pour toutes celles et ceux qui veulent bien manger pour être en bonne santé. Saviez-vous que les plantes, depuis la nuit des temps, sont utilisées pour assainir et même guérir le corps, car elles contiennent des éléments qui aident ce corps à évacuer les toxines ou peuvent aider à améliorer la santé de ce corps en général. Lorsque tous les systèmes de notre corps fonctionnent bien, alors tout va bien. Il ne faut cependant prendre pour acquis que les plantes nous guériront du jour au lendemain. Et il faut savoir que les plantes ne peuvent pas tout guérir, mais elles peuvent apporter un changement dans nos vies. Alors, pourquoi pas ? Je vous propose dans cette émission Alimentation Santé, et pour les prochaines qui suivront, c'est-à-dire les premiers et troisièmes mercredis du mois à 9h, d'aborder quelques pathologies et leurs solutions naturelles à base de plantes. Ceci toujours en compagnie de Madame Weinstein Loison, donc naturopathe à Saint-Jean-de-Védas. Voilà. Bonjour Scarlett.
Bonjour, bonjour.
Alors Scarlett, je vous propose un petit retour en arrière. Avant l'arrivée de la médecine moderne, les plantes étaient carrément le seul moyen que les hommes avaient pour essayer de soulager les douleurs, guérir les coupures et bien d'autres utilisations.
Tout à fait.
Alors il a donc fallu que des gens essayent une plante de différentes façons, en manger, en fumer, en boire, en infusion. Il fallait essayer les différentes parties, la racine, les feuilles, la tige, les fruits, les fleurs, la sève, même le bois.
Bravo.
Voilà, et le résultat donc, d'un nouveau test pouvait donner la mort, rendre malade, mais aussi possiblement soulager ou guérir.
Bravo.
N'est-ce pas, Scarlett ? Alors, pour cette émission, nous avons choisi par ordre alphabétique trois affections ou troubles de santé. Le premier lié à l'appareil digestif, soit l'acidité gastrique ainsi que les brûlures d'estomac. En second, nous traiterons de l'acidose et de l'équilibre du pH. Et nous terminerons avec les problèmes de l'acné. Ça vous convient, Scarlett ?
Très bien. Joli programme, absolument.
Bien, alors commençons par l'acidité gastrique et les brûlures d'estomac. Est-ce que vous voulez bien nous décrire les symptômes ainsi que la mécanique du processus pathologique ?
Voilà, tout à fait. Je reviens un tout petit peu sur votre introduction,
oui.
Annick, que j'ai trouvée très bonne, mes compliments.
Merci.
Et effectivement, la phytothérapie est passée au travers du laboratoire du temps. Et les recettes qui nous restent, toute la gamme extraordinaire de plantes que l'on peut utiliser était l'objet d'études extraordinaires au travers des siècles et des millénaires. Donc je trouve très dommage que l'on restreigne cette discipline, que des plantes précieuses dans des pathologies plus rares ne puissent plus être utilisées, parce qu'on cherche maintenant en France malheureusement à limiter l'usage de la phytothérapie. Je trouve ça vraiment très dommageable. Montpellier, c'est tout de même la capitale, une des grandes capitales de la médecine en France. Et cette capitale de la médecine a démarré par la phytothérapie, du fait de la phytothérapie.
Vous avez quand même le plus beau jardin botanique de France,
mais tout à fait,
au jardin des plantes.
Absolument. Donc vraiment, la phytothérapie, c'est tout un monde, c'est tout un univers. Et ces recettes, même les posologies, pour définir une posologie par rapport à la phytothérapie, il a fallu que ça passe par des expériences plus ou moins heureuses, parfois. Mais ce laboratoire du temps, on ne va pas alors le reproduire indéfiniment. Il faut tout de même qu'on en accepte les paramètres et ils sont précieux.
Oui.
Voilà.
Alors, allons-y pour l'acidité gastrique et les brûlures d'estomac.
Voilà. Alors, il s'agit bien sûr d'une inflammation de la muqueuse de l'estomac. Cette inflammation, elle peut être très vive, très douloureuse. On voit qu'il y a production de mucus au détriment des glandes gastriques. Et cette production de mucus va faire qu'il y a comme une sorte d'engorgement au niveau estomacal. Les brûlures sont intenses, on les ressent surtout après le repas, la plupart du temps. Et on ressent également des brûlures nocturnes vers les 3 heures du matin. Et ce sont les brûlures caractéristiques de la gastrite chronique. Donc on interroge toujours le malade, à savoir est-ce qu'il a des problèmes de brûlures dans la journée, auquel cas c'est un petit peu moins grave. S'il a les brûlures nocturnes, et il est déjà rentré dans la phase des problèmes de gastrite chronique.
Ah bon?
Voilà, alors cette gastrite, elle va finir par user la muqueuse estomacale. Donc au lieu que cette gastrite serve à dissoudre les aliments, à dissoudre le bol alimentaire, eh bien elle va finir par attaquer la muqueuse estomacale et à abîmer les récepteurs à l'histamine, donc qui sont à l'intérieur de la muqueuse estomacale. Et donc on va se retrouver après une phase intense de brûlure et de surproduction d'acide gastrique, on va passer par une phase où au contraire la muqueuse est complètement atone, elle a été agressée par la gastrine et donc elle ne peut plus assurer au contraire ce rôle de producteur d'acide. Et donc là, on est en pénurie d'acidité au niveau de l'estomac. Et on est après, on passe à la phase diatale, vous voyez. L'acidité a tellement rongé la muqueuse estomacale que la muqueuse est comme une chaussette. Et elle n'est plus capable de faire ce mouvement de mâchage des aliments. Et quand on est dans cette phase-là, eh bien, se nourrir le soir devient très délicat, puisqu'après, si on se met en position horizontale, c'est fini. Il n'y a plus de digestion du tout. Là. Mmh. Il n'y a plus de massage du bol alimentaire. Donc, il y a déjà une carence en acide gastrique. Et après, il se trouve dans une situation où ce mouvement de machine à laver que peut assurer l'estomac, il n'est plus capable de l'assumer. Donc, vous voyez, c'est à prendre en compte, évidemment.
Ah oui. Alors, que faire?
Ah, que faire lorsqu'il s'agit... Alors, il y a effectivement différentes causes. Hein. On a beaucoup accusé l'alcool, c'est certain. On accuse les épices, un petit
tout ce
peu
qui
moins...
est acidifiant, non?
Voilà, tout ce qui est acidifiant, tout à fait. L'excès de sucre joue un son rôle, absolument. Ouais. Le stress est un facteur très important au niveau de l'acidité gastrique. On voit qu'il y a des problèmes, des phases de crise acide qui sont complètement en rapport avec des périodes de travail intense, de surmenage. On voit aussi qu'il peut y avoir des phases de surproduction d'acide gastrique au mois de mars, par exemple. Alors pendant longtemps, je me souviens, moi qui ai travaillé pour les laboratoires en pharmacie, on disait « Ah, mais c'est parce qu'au mois de mars, on reçoit la fiche des impôts. » Mais non, non, non. Non, il se passe quelque chose au mois de mars. Il y a un réveil des hormonales, il se passe quelque chose. Et je pense qu'il y a également un réveil, une production plus intense d'enzymes digestives et notamment de gastrine. Je crois plutôt que ce soit ça.
Hein. Ouais,
voilà. Alors, il peut y avoir aussi, parce qu'il faut toujours définir les causes. Hein. Nous, en médecine naturelle, nous n'avons pas de moyen de camoufler le mal. Hein. On ne dispose pas de cortisone. Donc, on doit toujours chercher les causes. Hein. En tout cas, c'est mon état d'esprit. Et il faut savoir qu'il faut différencier également un problème de type surproduction d'acide gastrique d'un problème bactérien de type Helicobacter pylori.
Qui doit être plus rare, non ?
Qui finit par être quand même relativement fréquent. Hein.
Ah bon.
Et l'Helicobacter pylori, alors c'est une bactérie qu'on peut retrouver dans la viande qui n'est pas suffisamment cuite. Et qu'on peut retrouver, les personnes qui vont être sensibles à cette bactérie sont les personnes qui sont en achlorhydrie, qui ont une carence en acide chlorhydrique, donc une carence en gastrine. L'acide chlorhydrique joue un rôle d'aseptisant, de désinfectant du bol alimentaire. Vous voyez, c'est extraordinaire, la nature, tout n'est qu'adaptation et évolution dans la nature. Et donc cette production d'acide gastrique est nécessaire pour dissoudre les aliments, mais également pour les aseptiser. Par carence en acide chlorhydrique, eh bien on va se retrouver beaucoup plus sensible à certaines bactéries qui ne vont pas être désactivées. Et l'Helicobacter pylori est une bactérie qui va tourner comme un tire-bouchon qui tourne en vrille dans la muqueuse de l'estomac et si on la laisse faire, peut aboutir à des cancers de l'estomac, hein, qui sont des cancers terribles. Donc là, les examens médicaux, vous savez que autant je porte très haut ma discipline, mais je trouve tout à fait nécessaires les examens médicaux. Donc il est tout à fait indispensable de définir l'origine du problème. Et s'il y a un Helicobacter pylori, un traitement antibiotique va être nécessaire. Et puis nous, en médecine naturelle, on va proposer des plantes comme le lapacho, la propolis, soyez en quantité, des capsules d'huile essentielle, bien sûr. Il faut absolument éliminer cette bactérie. Hein.
Mmh.
Voilà. Hein.
Alors, Scarlett, je vous propose peut-être une petite respiration musicale, voilà. Parce que là, vous nous avez appris beaucoup, beaucoup de choses. Nous allons essayer d'enregistrer voilà. Tout ça en musique sur le réseau FM+.
Oh, donna, neni jaravide kelela, oh, donna. Oh, donna, neni furunyonde kelela, oh, donna. Ay, bangi bolola nekana, ay, bangi bolola nekizela, ay, bangi bolola nekuna.
Sur le réseau FM+, 91 FM à Montpellier et Alliance+, 103.1 à Nîmes. Une belle respiration musicale proposée par Manu. Manu, si je ne me trompe, il s'agit bien de Fatouma Diawara. C'est bien
Fatoumata
Diawara. Fatoumata, voilà, il me semblait bien que je faisais une erreur dans la prononciation. Fatoumata Diawara. Alors, nous sommes dans votre émission Alimentation Santé, qui a lieu tous les premiers et troisièmes vendredis du mois, mercredi du mois, pardon, à 9h, en compagnie de Madame Weinstein-Loison. Et donc, nous étions en train de parler de l'acidité gastrique, des brûlures d'estomac, des causes, des effets, et maintenant, nous allons aborder
les solutions.
Les solutions.
Voilà, Voilà, donc on fera attention à éviter bien sûr l'aspirine. Ça, c'est très connu. Hein. L'aspirine peut entraîner des risques hémorragiques au niveau de l'estomac, bien sûr.
C'est un fluidifiant aussi. Donc
c'est
voilà,
un fluidifiant aussi, ouais. Évidemment. La muqueuse est à vif. Mais il faut le savoir qu'à partir du moment où on arrive à contrôler l'acidité, très vite, la muqueuse se recicatrise et elle se désenflamme très, très rapidement. C'est là en l'espace de quelques jours, 5 à 8 jours. Hein. Donc, les antiacides naturels sont précieux. Alors, moi, je préconise, alors, dans les produits qu'on a dans la cuisine, hein, de se faire des jus de carottes crues avec une petite pomme de terre crue.
Oui.
C'est spectaculaire. Ça agit dans la minute qui suit. Le bêta-carotène est un cicatrisant de la carotte et l'amidon de la pomme de terre est un excellent antiacide.
Ah bon.
Alors, c'est une chose simple qu'on peut faire soi-même. Si on n'a pas d'appareil tire-jus, hein, on a des blenders, hein, c'est ces appareils poussés pour broyer les aliments. Hein.
Alors, ce moment, mais on arrive à tirer du jus avec la carotte et la pomme de terre.
Dans le blender, vous allez mettre de l'eau et vous faites comme un velouté cru de légumes. Hein, donc vous mettez une carotte, une petite pomme de terre crue et vous faites un velouté. Et là, sur tout ce qui est acidité, ça va agir tout de suite. Hein. Ça, c'est... action immédiate. Hein. Alors, on a un autre antiacide alimentaire, c'est le miel d'acacia. Le miel d'acacia est un très, très bon antiacide, cicatrisant. Vous savez qu'on utilise le miel d'acacia dans certaines cliniques pour cicatriser les plaies chez les cancéreux.
Ouais, ouais.
C'est le seul miel qui ne contient pas d'acide formique.
Ah, donc, d'accord. C'est donc, le miel d'acacia.
Le miel d'acacia est de loin le plus digeste. Hein.
Mm-hmm.
Alors, les amandes. Là, c'est une chercheuse israélienne. Je regrette de ne pas avoir son nom, qui a fait un excellent travail, qui a mis en évidence l'intérêt des amandes et de la crème d'amande complète. Et de manger des amandes, que le pouvoir antiacide peut être vraiment également surprenant. Hein. Alors, je préconise parfois une petite poignée de millepertuis dans la bouteille d'huile d'olive.
Ah bon ?
Oui, le millepertuis est un excellent anti-inflammatoire. Pourquoi pas consommer une huile d'olive qui sera anti-inflammatoire ?
D'accord. Alors, le millepertuis se
demandez-le en pharmacie. Hein, si vous ne pouvez pas le reconnaître dans la nature, il faut le demander en pharmacie, en herboristerie.
Ça se présente comment en pharmacie ?
Vous allez trouver millepertuis, c'est des petites têtes de fleurs séchées.
Ah, l'achète en fleurs séchées, donc voilà. On en fait une décoction ?
Non, vous le mettez carrément la poignée de fleurs séchées dans la bouteille d'huile d'olive.
D'accord, d'accord.
Hein, vous en mettez la valeur comme le sirop dans un verre de sirop, vous voyez, 10% à peine. Hein. Et l'huile va prendre une teinte un peu rougeâtre. Et l'huile est hautement anti-inflammatoire. Hein.
Ah bon ?
Très bien de faire ça. Hein. L'algue brune, alors nous on préconise en thérapie l'algue brune qui est un excellent antiacide. Et là, on est en thérapie directe, hein, dans ce qu'on peut conseiller. Vous me parliez à très juste titre, Annick, de la réglisse.
Oui.
La réglisse, Glycyrrhizia glabra, est un excellent antiacide. Hein. Très, très bien aussi, tout à fait adapté. Hein. Et les bâtons de réglisse qu'on peut trouver partout, hein, très adaptés hein, dans ces cas-là. Donc, vous voyez, voilà des solutions qu'on peut tout à fait avoir autour de soi. Hein.
Oui, oui, oui.
La gestion du stress, moi, je préconise vivement une plante que j'aime beaucoup, qui est la Rhodiola rosea. Qui est une plante hautement anti-stress, qui fait remonter tous les neuromédiateurs, qui optimise la vision de la vie, qui ne modifie absolument pas la personnalité, mais simplement ça allège la vision de la vie. Et quand je cherche toujours à discerner la cause. Hein. Est-ce que c'est davantage de stress, davantage d'alcool, davantage l'alimentation trop sucrée, trop épicée, hein, donc il faut voir, chaque cas est particulier. Mais si c'est le stress qui est à mettre en cause, Rhodiola rosea, une plante merveilleuse. Hein, merveilleuse.
Action, en homéopathie,
en phytothérapie,
donc
en phytothérapie, action dans l'heure qui suit.
D'accord,
voilà.
Ah oui.
Hein, bon, ben on a...
Ah oui, déjà, voilà, pas mal de choses. Et
voilà,
et en fait, des produits simples qu'on trouve facilement. Donc c'est tout à fait ce qu'il nous faut,
tout
Scarlett.
Fait.
Alors, eh bien, nous pouvons peut-être passer donc à l'acidose et l'équilibre du pH. Donc là aussi, c'est un problème récurrent, on va dire. Hein.
Voilà.
Que signifie, Scarlett, avoir un problème d'acidité et quelles sont les conséquences de l'acidification ?
Alors, l'acidification, l'acidose, c'est un phénomène qui est reconnu aussi dans toutes les médecines. Hein. Médecine conventionnelle, médecine parallèle, toutes les médecines sont d'accord sur le fait que l'individu peut se mettre d'un coup en acidose. C'est un fléau des sociétés industrielles. Pour la bonne raison, c'est que nous consommons beaucoup trop de sucre, beaucoup trop de viande, et puis trop peu de légumes. Quand je vois des parents qui me disent « Ah, mais vous savez, moi, il n'aime pas les légumes. » Mais vous savez, se nourrir, c'est un plaisir, je veux bien le reconnaître, mais c'est une nécessité aussi. Hein, donc, c'est vrai que là, si on continue avec une alimentation hyper acidifiante, il ne faut pas s'étonner qu'on se mette en acidose. Il y a un autre phénomène qui crée l'acidose. Alors, l'acidose, c'est la modification du pH du liquide dans lequel baignent nos cellules. Si ce pH est à 7,4, c'est normal. Si ce pH descend à 7,38, 7,37, c'est grave. On est en situation pro-inflammatoire. L'oxygène a du mal à arriver à la cellule, donc les échanges intra- et extracellulaires vont mal se faire et tous nos tissus vont être pénalisés. Et donc l'acidose entraîne un facteur de pro-inflammatoire comme un facteur de vieillissement des tissus. Mmh. On est ralenti dans notre élan vital. C'est vraiment tout à fait dommage. C'est à prendre. On a beaucoup de livres qui sont sortis sur l'acidose. Il faudra encore en écrire davantage. Il faut que maintenant la population prenne en compte beaucoup plus largement ce phénomène. L'acidose, s'il y a modification du pH dans lequel baignent nos cellules, eh bien, il y aura corrosion des tissus, inflammation. Et si le processus dure trop longtemps, l'inflammation ne va pas seulement gagner la membrane cellulaire, mais l'inflammation va également gagner l'intérieur de la cellule, l'ADN. Et il peut y avoir modification de l'ADN avec les risques de cancérisation quand l'acidose continue trop longtemps et quand elle va trop loin. Mmh. Non, mais que des jeunes soient nourris exclusivement de viande, de sucre, de soda sucré, ils sont d'ailleurs très irritables. L'acidose entraîne une forte déminéralisation. pH trop acide, corrosion des minéraux. Donc on a des jeunes qui sont irritables, ils ont des fuites de calcium et de magnésium, donc ils sont fragiles au niveau nerveux, et puis ils n'ont pas de capacité de résistance à l'effort sur la durée. Mmh. C'est tout ça est lié à l'alimentation, c'est vraiment très dommage. Ouais.
Alors une méthode simple, nous en avons déjà parlé, mais je pense qu'il est bien de réexpliquer comment connaître son pH.
Alors, on a des petites languettes qu'on va trouver à la pharmacie, qu'on peut trouver en magasin diététique aussi, qui permettent de mesurer le pH urinaire. L'urine va être toujours beaucoup plus acide que le sang, puisque l'urine est chargée de dégager l'excès d'acidité. Hein, donc, ces petites languettes vont avoir un changement de couleur suivant le taux d'acidité de ces urines.
Mmh, voilà. Hein. À faire de préférence le matin.
Le matin, c'est la deuxième urine du matin, mmh. Pas la première. Hein. Ouais. Mais là, c'est vrai que là, c'est un point très important, ça. L'acidose, vous voyez, on va se traduire notamment par des crampes. Là aussi, on voit des pathologies dont on parle beaucoup aujourd'hui, comme la fibromyalgie, mais il faut prendre en compte le phénomène d'acidose dans la fibromyalgie. Hein. Si notre pH devient trop acide, en dessous de 7,35, on est en phase mortelle, hein, donc c'est plus tenable. Hein. Mmh. Et on a vu que les sociétés primitives ont un pH de 8,3. Vous rendez compte, extrêmement alcalin, extrêmement doux. Mmh. Parce que contrairement à ce qu'on pense, les populations primitives mangent peu de viande. Si vous allez dans des pays comme le Maroc, dans les régions pauvres, ils mangent très peu de viande. C'est un événement de manger de la viande. Et croyez-moi que quand il faut chasser avec des arcs et des flèches, on mange peu de viande. Mmh, mmh. C'est un événement. Et le principal de l'alimentation, 70% de l'alimentation, ce sont des graminées, des légumes, des racines que les femmes vont ramasser. Mmh. Elles assurent certainement beaucoup plus la base de la nourriture que les hommes chasseurs même. Hein. Mmh. Donc là, non, mais notre société a vraiment complètement tordu vers une alimentation facile, une alimentation de séduction, mais une alimentation qui a des résultantes formidables. Moi, tous les jours, je vois des jeunes, les parents viennent me voir en consultation pour des problèmes de dermatos, etc. Et puis finalement, ils me disent « Ah, mais vous savez, il n'aime pas les légumes. » Non, 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 non. On présente les légumes 8 fois pour que l'enfant l'accepte. Et on a vu en statistique que les parents le présentent 2 fois, 3 fois. Et si l'enfant ne veut pas, on laisse faire le petit chéri. Hein,
le petit chéri, on lui fout une paire de claques. On lui dit, tu manges.
Tu manges ta soupe. Voilà.
Scarlett, avant de parler, que vous nous donniez des conseils, des suggestions d'aliments à favoriser concernant ce problème. Voilà, on refait une toute petite respiration musicale sur le réseau FM+.
I'm man for mutie in ya bachale mote men kanche adiache braye diasa yesi wichire bema wichiro ni papako wichiro ba wichira menye dainty pimpina na na mochimami ana tamale panta ma thing crazy na wichi mobu pise yume na mebono kwa pini nyame na doma ra abuchira brapo yeponi se walo tu wala sa mupene se kia na se profano tonti akajo sono shaka maybe o senye wana wopo deba na misi anye fembazansi.
Oui, toujours sur le réseau FM+. Donc, nous sommes en compagnie de Scarlett Weinstein-Loison, naturopathe à Saint-Jean-de-Védas, votre émission Alimentation Santé, qui a lieu tous les 1er et 3e mercredi du mois à 9h, et écoutable, bien sûr, en podcast sur le réseau FM+. Donc, Scarlett, nous allons aborder donc, ces problèmes, enfin, les solutions plutôt, donc de
l'acidose. Hein, concernant l'acidose.
Voilà, c'est ça, oui.
Voilà. Alors, concernant l'acidose, il y a deux organes qui vont être excréteurs d'acidité. Ce sont les poumons qui vont éliminer, par lesquels on élimine l'acide carbonique, le gaz carbonique. Hein, donc, forcer le souffle, c'est toujours bien. Le bol d'air jaquié est tout à fait respectable dans cette démarche, puisqu'il favorise une baisse de l'acidose, tout à fait. Ensuite, les reins sont très importants. Le fait de boire beaucoup, plus on boit, plus on diminue l'acidose. Hein. Là, ce sont des choses faciles à faire. C'est oui. tout à fait facile à faire. Au niveau alimentaire, il faut manger beaucoup de légumes, manger beaucoup de pommes de terre. Le potassium est un excellent antiacide. La pomme de terre contient beaucoup de potassium.
Ah, la pomme de terre retrouve un peu sa place. Hein, mais, parce qu'avant, on disait la pomme de terre fait grossir.
Il faut qu'on arrête avec ça.
Voilà. Et puis, tout dépend aussi comment on la prépare.
Mais bien sûr, puis le fait de lutter contre l'acidose, vous savez que l'acidose est un facteur de stagnation cellulaire, en quelque sorte. Les échanges intra-extracellulaires ne peuvent plus se faire correctement. Donc, on voit des personnes qui n'arrivent plus à perdre de poids parce qu'elles sont en acidose. Donc, il faut absolument faire chuter l'acidose. Le seul fait de leur conseiller de consommer des compotes crues, de consommer des compotes, excusez-moi, froides, le seul fait de consommer des pommes de terre, le seul fait de consommer des bananes, vous allez faire baisser l'acidose. Mmh. Il faut la faire baisser absolument. Alors, le persil est également un excellent antiacide.
Anti-acide et anti-infectieux, je crois aussi.
Anti-infectieux,
le persil,
voilà,
c'est vraiment un très très bon légume.
Hein, oui. Voilà, donc voyez dans tes choses. Mais plus on va manger des légumes, plus on va manger des fruits, plus on va réduire l'acidose. Alors on a tendance à dire parfois que l'acide des fruits est également corrosif, pas du tout. L'acide des fruits est un acide qui se transforme en bicarbonate dans l'organisme. Et c'est un acide qui n'est absolument pas corrosif. Le jus de citron est alcalinisant. Les Mexicains, vous savez, ils ont au bord de l'assiette une moitié de citron. Et ils mettent du jus de citron sur tous les aliments.
Oui, ils en ont aussi avec la tequila. Hein.
Ah oui, ça d'accord, oui, ça peut être. Mais là, c'est les plus fortunés, vous voyez. Mais les plus fortunés au Mexique mangent beaucoup de viande, parce que tu en as bu complet. Mmh, mmh. Mais par contre, c'est vrai que dans la population, les pauvres, vous savez, ne mangent pas beaucoup de viande. Hein, et par contre, ils mettent du citron partout.
Oui, oui, oui.
C'est une très
et
bonne
c'est vrai
idée.
Que,
très
voilà, nous, il est conseillé tous les matins, ne serait-ce qu'un demi-jus de citron à jeun.
Ah oui, avec une petite pointe d'huile d'olive, qu'est-ce que c'est bien de faire ça. Voilà,
ou avec une eau tiède et une cuillère de miel,
oui, tout
par
à fait,
exemple,
ça hein. peut se faire, mais c'est vrai que le citron est tout à fait un bienfaiteur au niveau hépatique et c'est un alcalinisant.
Mmh, mmh.
Mais tous les fruits, tous les légumes, hein, quasiment. À part, on va dire, les légumes qui vont vraiment être acidifiants, on va accuser la rhubarbe qu'on ne mange pas tous les 4 matins. Dans certains cas, la tomate, c'est vrai, mais non. Là, vraiment, l'acidose a pour 3 grandes causes, le stress, l'excès de sucre, l'excès de viande. 3 grandes causes. Après, on peut voir également l'excès de céréales.
Mais céréales, traitées.
Oui, traitées,
pas
voilà,
les céréales
oui.
complètes, j'imagine.
Voilà, oui, mais encore que, vous savez, toutes ces céréales, moi j'aime beaucoup les magasins diététiques, hein, ils nous ont beaucoup apporté, évidemment. Hein, mais toutes ces céréales qu'on voit dans les magasins diététiques, je ne les privilégie pas.
Ah bon ?
Non, je pense que la base de la santé, c'est de manger beaucoup de légumes, beaucoup de légumes, beaucoup de légumes. Et là, on rentre en ligne de compte le plaisir de faire la cuisine. Mmh. Et ça, encore, c'est une autre histoire.
Oui, oui.
Voilà.
Bon, cuisine à la vapeur, c'est pas mal quand même.
Tout à
aussi,
fait.
Chose simple,
tout à fait.
Hein, chose
tout à
simple.
Fait. Et puis, voilà, il faut. Voilà des mots qu'on va remettre au goût du jour. Le mot simplicité. Les choses, des aliments simples. Absolument.
Et bien, sur ces belles paroles, Scarlett, je vous propose de terminer cette émission. Évidemment, voilà, une demi-heure qui a passé encore très très vite en votre compagnie. Et donc, nous devions aborder le problème de l'acné. Eh bien, nous l'aborderons dans notre prochaine émission,
voilà.
C'est-à-dire ou le 1er ou le 3e mercredi du mois. Et donc, je donne rendez-vous à nos auditeurs à 9h sur le réseau FM+, et en podcast. donc sur fmplus.org. Voilà, Scarlett, à très vite.
Allez, à bientôt, merci.